RTL Soir, 18h-20h,
Christophe Ondelatte.
Edu Plenel, vous êtes donc un peu, je le disais tout à l'heure, le héros de l'été, puisqu'en tant que fondateur et patron du site d'information sur Internet Mediapart, vous êtes celui qui a publié les fameux enregistrements réalisés par le majordome de Liliane Bettencourt, celui donc qui a fait naître l'affaire Wörth Bettencourt, ce qui vous a valu de vous faire traiter de fasciste, de collabo, de délinquant du journalisme, et même d'hitléro-trotskiste, ce qui fait évidemment référence à votre passé trotskiste dans votre lointaine jeunesse, par un sérum de leader de la majorité. Je voudrais savoir si c'est une fierté pour vous, ce petit tremblement de terre-là.
Moi, je ne suis pas un héros personnel, hein, c'est une aventure collective, Mediapart, c'est une équipe de journalistes, et j'espère que...
De combien tient d'ailleurs au passage?
25 journalistes venus d'à peu près tous les titres existants, de toute génération. Le tandem qui fait le gros des investigations sur l'affaire Bettencourt, Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, l'un a moins de 30 ans et l'autre approche de la cinquantaine. Ils ont des parcours et des âges différents. Donc c'est une aventure collective faite pour défendre l'utilité de notre métier, et je pense que ça aide toute la profession. Notre métier, il est fait pour mettre sur la table ce qui éclaire les citoyens, et c'est ce que nous avons fait avec l'affaire Bettencourt. Quant aux attaques, d'un côté, je les prends sereinement, parce que quand on fait ce métier, et ça m'est arrivé, vous le savez, sous d'autres présidences, celle de François Mitterrand, celle de Jacques Chirac, on est toujours attaqué par les pouvoirs qui n'acceptent pas les contre-pouvoirs. En même temps, je l'ai dit, c'est la première fois que les attaques sont d'une telle virulence.
On ne vous avait jamais attaqué avec ces mots-là.
Non, méthode fasciste, vous savez, notre métier de journaliste n'est fait que de méthodes. Ce sont des méthodes démocratiques dont nous rendons compte devant les tribunaux. Je rappelle que sur la publication des enregistrements par Mediapart, nous avons gagné en première instance et en cour d'appel. Et les magistrats,
parce
vous
que
savez...
ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez une petite jouissance à avoir fait tout ça.
Non, ça fait 30 ans que je fais ce métier et je suis un artisan, j'ai le plaisir du métier. Je sais bien que beaucoup de gens voient ce côté David contre Goliath. Je l'entends bien et même par moments ça me trouble parce qu'il y a, dans ce moment, on en parlait tout à l'heure, on a l'impression que le pays est, par le discours d'en haut, tiré vers le bas, monté les uns contre les autres, brutalisé. Il y a un côté circulé, il n'y a rien à voir, brutal, un peu vulgaire même dans la parole actuellement politique, tout en haut. Donc du coup, on a beaucoup d'admiration pour ceux qui osent. Donc Mediapart a osé. Donc on nous renvoie ça un peu, notre audace et notre courage. Mais j'espère, je voudrais juste dire ça, bien sûr que ça fait plaisir qu'il y ait cette reconnaissance. Et en même temps, mon but, mon souhait, c'est qu'elle gagne tout le monde. Parce que je n'aime pas, et encore une fois, la seule légitimité du journalisme, elle est la démocratie. Et la démocratie, c'est d'arriver à partager sereinement le débat, la discussion. Et je n'aime pas cette virulence actuelle.
C'est quoi le moteur de votre vie professionnelle? Parce que je ne crois pas que tous les journalistes fonctionnent avec le même moteur.
Moi, c'est la curiosité, qui est une qualité que tout journaliste doit avoir.
Je concède.
Oui, et puis après, je suis on me décrit souvent comme quelqu'un de dur, je ne le crois pas, je suis simplement, je pense, assez intransigeant avec ce rôle-là. Si nous sommes journalistes, eh bien, nous apportons la nouvelle qui dérange. Autrement, à quoi on sert? On sert à quoi? Notre rôle, vous savez, c'est le droit à l'information des citoyens. C'était une conquête il y a deux siècles, terrible. Vous savez que le premier maire de Paris, le chef du tiers-état, a dit « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple ». C'est-à-dire, c'est de là qu'on vient, nous, journalistes. Donc, si vous me demandez d'où ça vient, oui, j'ai un engagement qui est un engagement passionnément démocratique.
Alors, je voudrais savoir si vous avez été 25 ans journaliste au Monde.
Oui.
Donc vous avez fait du papier.
Un quart de siècle.
Vous avez fait du papier avant de passer à Internet et à Mediapart. Est-ce que c'est plus facile de sortir et de nourrir ce genre d'affaires sur Internet que dans un journal ancestral comme Le Monde sous forme papier?
C'est à la fois la même chose et à la fois radicalement autre chose. C'est la même chose dans les méthodes de travail.
C'est la première fois qu'Internet sort un coup comme celui-là.
Oui, et puis ça va continuer. Hein. Ce feuilleton n'est pas terminé et on va repartir d'arrache-pied la semaine prochaine avec de nouvelles révélations. Parce que ça se prépare, les révélations, c'est un travail. Donc c'est la même chose, la vérification, la bonne foi, la rigueur, etc.
Et c'est différent quoi, ouais.
Ce qui est différent, je vais vous dire, c'est évidemment le fait qu'on a pu mettre les sons, pas seulement le texte de ces bandes, ouais. C'est qu'on est dans l'audiovisuel, on est dans le multimédia, on est dans l'écrit, etc. Mais la grande différence, c'est la relation au public. Et là-dessus...
C'est le blog qui va derrière.
C'est la radio. Pour moi, le média qui avait compris ça, et que moi j'ai appris ça venant de l'écrit. C'est cette interactivité que vous avez
toujours. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Voilà. Et bien ça, tout d'un coup, des journalistes venus, entre guillemets, de la vieille presse, passant au numérique avec les mêmes valeurs, découvrent cette interactivité, cette participation. C'est le public qui est là pour nous critiquer, pour nous rectifier, pour nous commenter. Au début, on avait tous peur de ça. Ils se sont dit, tiens, on descend de l'estrade, ils sont là.
Ils sont là, oui. J'aime pas ça non plus, c'est vrai.
Finalement, moi, ça m'a donné une deuxième jeunesse. Parce qu'il y a quelque chose qui totalement est stimulant.
Alors, est-ce que votre but, c'est de faire tomber Wörth? Parce que quand vous dites, on a encore d'autres révélations la semaine prochaine avec un petit sourire dans la moustache, ça peut laisser penser que votre objectif, c'est de faire tomber Wörth.
Mon objectif, c'est que toute la vérité soit connue. Vous vous rendez compte de tout ce qui a été fait pour entraver la vérité? Pas de magistrat indépendant, pas de commission rogatoire internationale pour aller contrôler ce qui s'est passé dans les comptes en Suisse, alors que dans les bandes, on parle de ces comptes en Suisse, l'ex-comptable parle d'argent qu'on a été chercher en Suisse. Tout ça a été bloqué, instrumenté par le pouvoir exécutif. De quoi ont-ils peur ? Normalement, la justice doit vérifier, doit recouper. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous, journalistes, avec l'arme du Freedom of Information Act qui nous permettrait d'obtenir toutes sortes de documents. Nous avons commencé une histoire, nous irons jusqu'au bout de cette histoire.
Ça vous a amené, la semaine dernière, je crois, à sortir cette mini-affaire Wörth qui n'a... Moi, je ne trouve pas grand intérêt qui consiste à dire, pour emprunter 7 500 € pour une campagne municipale, il a sous-évalué ses revenus, Eric Wörth. Ça n'a aucun intérêt, parce que sous-évaluer ses revenus, ça n'a jamais été un crime. C'est surévalué.
Justement, alors je vais vous expliquer, on n'a pas seulement sorti ça, on a sorti autre chose.
Ça décrédibilise un peu votre démarche.
Non, je sais, certains ont dit ça, je vais vous expliquer. On a également sorti que quelqu'un qui avait certifié les comptes électoraux avait reçu également une Légion d'honneur, parce qu'on découvre des sortes, pour moi, de trafic de Légion d'honneur, quand même. Vous savez qu'un président de la République est tombé là-dessus, sous la Troisième République. La Légion d'honneur, normalement, c'est une décoration qui se mérite, c'est pas des petits services qu'on se rend. En l'occurrence, nous, on a fait notre travail. Vous savez combien les Français, sur leurs impôts, donnent par an aux partis politiques ? Grâce à nous, journalistes.
Des millions.
À nos révélations. Je faisais l'affaire Urba, c'était le financement du Parti Socialiste. Du coup, on a dit, la vie politique a un coût, on va leur donner de l'argent au lieu qu'ils aillent faire des caisses noires. 75 millions d'euros par an. Plus, sous conditions de plafond pour les campagnes électorales, plus les dons privés. Dans ce cadre-là, ce qu'on peut demander quand même à ceux qui touchent cet argent, c'est de respecter l'ensemble des règles que n'importe quel citoyen contribuable devrait respecter. On a été à la commission des comptes de campagne. C'est des documents publics.
Oui, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est-à-dire d'avoir dit je gagne 3 000 euros par mois pour en emprunter 7 500,
ça vient après un conflit d'intérêts manifeste, l'histoire du premier cercle avec tous ces milliardaires que l'on recrute et auxquels on fait des faveurs fiscales, parce qu'il n'y a pas que la famille Bettencourt, il y a l'affaire Wildenstein. D'un côté, je te fais des faveurs fiscales, de l'autre côté, finance mon parti. Et il n'y a pas de problème. Et donc, on découvre quoi ? Ben, on découvre tout simplement que M. Wörth, alors que cette transparence devrait être normale, pourquoi n'a-t-il pas rempli normalement ce formulaire ? Parce qu'il ne veut pas qu'on connaisse le montant de ses revenus, exact, et parce qu'il ne veut pas qu'on connaisse le montant de ses impôts. J'estime que la relation à l'argent de toute personne publique est quelque chose de légitimement public. Parce qu'on est ministre du budget, on gère quoi ? Les comptes de l'État. Et ils sont faits de quoi, les comptes de l'État ? De nos impôts. Quelle est la première loi commune ? C'est la loi fiscale. C'est ça qui nous rend égaux. Donc, voilà, c'est anecdotique. Bien sûr que vous avez raison, c'est pas le scoop du siècle.
Mais ça amène les gens à dire, il est gentil, Plenel, mais là, il pousse le bouchon, ça sent le règlement de compte.
Je ne bouche aucun bouchon, c'est l'équipe de Mediapart suit tout cela. De la même manière qu'on suit actuellement une autre enquête que d'autres confrères ont traitée sur des histoires autour de la recherche sur le sida, où vous découvrez qu'il y a plein d'argent qui est donné à des associations sur le sida, et en même temps, le compagnon de la personne qui dirige ça devient le médecin traitant de Madame Bettencourt, chasse d'autres médecins, et ça fille à 18 ans touche 500 000 euros de Madame Bettencourt pour s'acheter un appartement. Attendez.
Ça, c'est autre chose que ce petit
point. Oui, mais ce petit point vient, excusez-moi, il vient dans un domaine où il y a eu, je vous le rappelle, avant, de Maistre Wörth, il y a eu l'échec. Nous avons, et vous les avez rediffusés sur RTL, ce moment audio en mars dernier. 3 chèques. L'un pour Madame Pécresse, d'accord, elle est candidate au régional. Il y en a un pour M. Woerth, fait par Mme Bettencourt, c'est M. plutôt de Metz qui lui dit de le faire, et un autre pour M. Sarkozy. Ni l'un ni l'autre ne sont en campagne électorale. Pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, à part des explications orales, on ne m'a pas montré les chèques, leur destinataire, ou quand, comment.
On va interrompre cette conversation, Edoui Plenel, et poursuivre tout à l'heure.